Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Un petit break, une journée pas plus pour la dame, un gros break, 3 semaines pour la Ligue des Champions. Et donc forcément l'occasion de faire un premier bilan, non pas celui de la dame, il est plutôt pas mal après 9 ans de service, mais plutôt un bilan de la reine des compétitions de club. 2 journées de disputées, on est au tiers de la phase de poule et il y a forcément quelques enseignements à tirer. D'abord retour sur les matchs d'hier, mercredi, Lyon qui gagne à Leipzig, déclic ou pas pour les hommes du duo Juninho-Silvinho. Lille battu à domicile par Chelsea, la fin des haricots ou pas. L'Ajax qui cartonne, le Barça qui renverse Liverpool abandonné par sa défense. Rien forcément de tout cela ne vous a échappé, mon cher Naïm Moniol.
Rien du tout. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Vous avez vu tous les matchs en direct?
Oh, j'ai pas en direct.
Revu dans la nuit.
Non, j'en ai revu. J'en ai revu et encore ce matin, donc on a pas mal de choses à dire.
Sinon, donc 2 journées de disputées, on l'a dit, pour tout le monde, de belles options prises pour certains comme le Paris Saint-Germain. Vous n'étiez pas à Istanbul. Sinon, nous serions allés ensemble à la Mosquée Bleue, déambuler dans Topkapi ou admirer Sainte-Sophie, mon cher Dominique Sévrac. Néanmoins, vous êtes là et ça nous fait plaisir.
Et ça bosse fort quand même, hein.
Oh. C'est marrant, de lundi à mercredi, personne ne l'avait faite. Il est fort comme un Turc. Néanmoins, vous nous direz si ce PSG-là vous convainc en C1. Voilà, parce que.
Ah bah, ils sont champions d'Europe de la phase de poule. Hein. Ouais. C'est après que ça se complique.
On est bien d'accord. On va en reparler. Et pourquoi pas non plus en remettre une petite couche sur le Real, à 5 points du Paris Saint-Germain. Ça sent l'anus horribilis ou pas, on verra bien. Le Real va-t-il s'en sortir et revenir plus fort, comme c'est souvent le cas? Si Lille paye pour apprendre dans le même groupe, l'Ajax régale comme l'an passé. Et cela forcément doit réjouir notre Rastaman néerlandais. Sherif Guémour, bonjour.
Bonjour. Oui, ça me réjouit. Bonjour à tous.
Un petit concert à nous annoncer?
Ah oui,
Ah, il faut faire sa promo.
Ah bah alors, mardi 8 octobre au motel à Paris, avec mon ami Pierrot, on reprend du Dylan.
Et pour tous nos auditeurs, si vous venez, bah, c'est Sherif qui paye la première bière. Et pourquoi pas non plus en remettre une petite couche sur le Real de Londres, ça je l'ai dit, hein, à 5 points du PSG.
Ils sont toujours à 5 points, hein, ça n'a pas changé.
Ouais. Peut-être, messieurs, aurez-vous, votre propre coup de cœur ou une amère désillusion sur ce premier mois de compétition? Vous serez alors gentil de nous en faire part quand je vous le demanderai. La Ligue des Champions en long et en large, on l'a compris, et l'équipe de France pour terminer. Didier Deschamps a livré cet après-midi sa liste des 23 retenus pour 2 matchs décisifs en vue de l'Euro 2020, en Islande le 11 octobre, puis face à la Turquie le 14. Dédé qui renouvelle bien sûr sa confiance aux champions du monde. Mbappé et Kanté sont de retour de blessure, Kimpembe aussi. Mandanda, il est de retour lui de disgrâce. Allez, fini de niaiser, il faut dérouler, monsieur Salerno.
Ça va voir qui donne pour un fils de paille, mais attention, le ballon perdu, et le vase Martin Terrier qui déborde, c'est le but, et le but pour les Lyonnais, 2-0, 65e minute de jeu, et qui a profité d'une erreur défensive du RB Leipzig pour doubler la mise, et ça fait donc 2-0.
C'est vrai qu'en première mi-temps on a eu un peu de mal. Après, je pense qu'avoir mis le premier but, ça nous a fait énormément de bien. Après, je pense que c'est un match référence, il faut qu'on soit de la même façon à tous les matchs, esprit d'équipe, faire les efforts les uns pour les autres. Tout le monde a pensé au collectif et je pense que ça s'est vu, et notamment au score. On voit qu'on est venu gagner ici alors qu'ils sont en deuxième, il me semble, de Bundesliga. Ils ont fait un très bon début de saison, donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici. On est très fiers.
Le but de Martin Terrier, l'interview de Martin Terrier. Et tout ça au micro de CD, Christophe Diremzian, qui était hier à Leipzig. Martin Terrier, donc deuxième buteur de l'Olympique Lyonnais hier soir, sur la pelouse du RB Leipzig. L'OL qui s'impose 2-0, messieurs, le grand mot c'est le déclic, ça y est, enfin, ou c'est trop tôt?
C'est trop tôt, d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que Leipzig a absolument tout raté, de manière assez incompréhensible d'ailleurs. Je pense que Werner aurait pu en mettre 3 lui tout seul, au moins. Et puis parce que sur un match, on peut pas dire c'est le déclic, ça y est, il y a encore une semaine, Lyon était au fond du trou, perdait contenance et on savait pas bien ce qu'il allait devenir de Silvinho. Aujourd'hui, ils vont gagner en Allemagne, très peu de clubs français l'ont fait en Coupe d'Europe. Donc il faut attendre, il y a un derby dimanche pour confirmer. J'attends de voir aussi ce que va donner par la suite l'Olympique Lyonnais, parce que 5 défenseurs, un milieu défensif, c'est quand même une équipe qui était plus là pour courir, pour faire des efforts, pour combattre, pour faire de la solitaire, pour faire du jeu. Sans Reine Adélaïde, qui est le meilleur joueur du moment, sans Dembélé, qui est le meilleur buteur. Voilà, je demande à revoir cet Olympique Lyonnais-là pour être sûr.
Oui, ça veut dire que Silvinho, qui était quand même... il y avait une concentration des critiques sur lui, il a quand même fait des choix forts. Il a quand même il s'est passé de Dembélé. Il a mis Terrier et Depay ensemble en attaque. Donc dans un 3-4-1-1.
Bah il y avait 5 défenseurs, ouais, donc
truc comme ça.
Plus, hein, vraiment 1-1 parce que ouais. La complémentarité, je demande.
Donc moi je trouve ça fort d'être acculé dos au mur et de faire des choix, de pas reconduire la même équipe. Je trouve toujours beau d'aller gagner en Ligue des Champions. On va peut-être parler de Liverpool Salzbourg tout à l'heure, c'est jamais facile, quand bien même l'adversaire paraît inférieur, quand bien même il y a eu beaucoup d'erreurs défensives de nos amis de Leipzig. Donc je ne sais pas si c'est un déclic, parce que tout ça s'analyse sur des séquences, donc il faut voir avec Saint-Etienne ce week-end, et après il y a la trêve.
Le derby dimanche, hein,
voilà, il faudra voir.
Saint-Etienne-Lyon.
Il faudra voir, ils sortent d'une séquence qui est pas bonne, c'est peut-être une éclaircie, puis ils vont retomber dans leur travers dimanche, ou ils vont lancer un truc, on va voir.
Disons que...
ça lui donne du répit.
Un mot de Shérif, on rappelle juste que Lyon, qui avait démarré tambour battant en Ligue 1, et que c'est un 6-0, un 3-0, ouais.
9 buts en 2
matchs. N'avait plus gagné depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues, 4 nuls et 3 défaites avant ce succès hier à Leipzig, qui les place en tête de leur groupe, hein, avec le Zénith Saint-Pétersbourg.
Non, pas convaincu par le déclic. Je pense qu'ils ont joué d'abord sur les fondamentaux, c'est-à-dire la combativité, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ils l'ont regagné, c'est plutôt une bonne chose. Ils le doivent aussi à leur une grosse densité, avec, comme l'a rappelé Naïm, 5+1 dans le bloc défensif. Et malgré tout ça, ils ont quand même concédé des occasions absolument immanquables. Donc ça aurait pu tourner hier au désastre. Finalement, ça leur a profité. En plus, les deux buts qui marquent, c'est sur des erreurs, mais absolument grossières.
L'entraîneur a dit « on a marqué 2 fois contre notre camp ».
C'est pas faux, c'est une façon de voir les choses. Après, il y a les, une fois de plus, il y a les fondamentaux, c'est-à-dire quand Lyon retrouve la combativité, ça ressemble un peu à quelque chose. Mais au niveau du jeu, ils n'ont pas proposé grand-chose. Peut-être Aouar, que j'ai bien aimé par moment, Touzard, et puis même les deux attaquants, c'était clairement, on a joué à deux têtes chercheuses devant, qu'on a essayé de trouver, qu'on fait beaucoup de mouvements, qui ont été buteurs. Là, bravo Silvinho, parce que bon, d'accord, il a eu le nez pour sentir le. Mais non, Lyon n'est pas guéri. Mais c'est bien quand même. Hein. Après, on peut se féliciter. 4 points en 2 matchs, un match nul, une défaite, c'est bien.
Pour rebondir sur ce que dit Shérif, Leipzig a fait des erreurs, tout ça. En Ligue 1, il y a d'autres équipes qui ont fait des erreurs.
Timo Werner a bouffé la feuille. Surtout.
Ouais, Timo Werner il bouffe la feuille, mais des équipes en Ligue 1 qui ont fait des erreurs contre Lyon et que Lyon n'a pas bonifié, il y en a eu aussi. Donc c'est bien de rebondir et d'être capable d'exploiter les erreurs des autres. Ce qui pose question sur cette victoire de Lyon, c'est que d'abord, Lyon a un effectif de joueurs de ballon. Parce que si vous prenez Aouar, Reine Adélaïde, Jean-Lucas, Thiago, Depay, que ce soit aussi Moussa Dembélé, c'est des joueurs de ballon. Et la
donc
victoire
ça vaut
d'hier,
mieux que ce qu'il nous propose.
Non, mais ça vaut mieux que ce qu'on a vu hier, parce qu'hier c'était vraiment la solidarité, du combat, des blocs bas, ça ressemble pas vraiment au profil de Lyon. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Dominique juste avant l'émission, Aouar a été très bon. Aouar a même été fabuleux, moi j'ai trouvé sur ce match. Le problème c'est qu'Aouar il est pas tout le temps fabuleux. Ouais. C'est quand même un garçon qui est très irrégulier. Donc cette victoire-là, moi j'aimerais la revoir, j'aimerais que Lyon... Et enfin, les résultats qui correspondent à ces investissements et que ça devienne une grosse équipe de Ligue 1. Le problème, c'est que ça repose à l'instant T, on verra dans quelques semaines plus tard, mais à l'instant T, ça repose sur des ressorts dont je suis pas sûr qu'ils soient en mesure de reproduire systématiquement semaine après semaine.
Je sais pas si c'est ce que tu as dit, Naïm, mais je trouve quand même qu'on surcote un peu Lyon. Pour moi, à part Memphis Depay et peut-être Lopez, le gardien, qui est international portugais, le reste, tu as parlé d'Aouar, j'attends confirmation, tu as parlé de Reine Adélaïde. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe. Et on la voit, c'est un grand club, c'est un club qui est champion. C'est le club de la décennie 2000-2010 avec 7 titres de champion de France. Mais est-ce que là, actuellement, ils ont une grande équipe? Je pense qu'on fait la même erreur avec Genesio qu'avec Silvinho. Peut-être qu'on surcote un peu cette équipe.
J'ai pas dit grande équipe ou grand club, j'ai dit que c'était des profils de joueurs de ballon.
Oui, voilà. Donc c'est pour ça que
Il y a joueurs de ballon,
C'est des joueurs de ballon.
René Laïte, Aouar, Thiago Mendes.
C'est pas forcément des grands joueurs.
Non, c'est pas des grands joueurs, mais ce sont des joueurs de ballon. C'est-à-dire que la victoire qu'on a eu hier, c'est-à-dire beaucoup d'intensité, du pressing, quand ça galope, quand c'est solidaire, quand c'est bien, c'est très bien de le faire dans l'intention. Il y a pas beaucoup d'équipes qui réussissant ces qualités-là, mais ça ne correspond pas
moi, je dis
aux qualités
chose.
De joueur.
Je dis ne nous leurrons pas, c'est peut-être pas des grands joueurs.
Laissons le shérif s'exprimer.
Non, comment ça s'appelle, des grands joueurs de ballon. Faut aussi comment ça s'appelle que ça s'exprime dans un cadre collectif. Si le cadre collectif il apparaît pas, c'est bien beau de faire son numéro, enfin de faire admirer sa technique, mais moi je vois pas une technique en mouvement. Faut quand même comparer à ce qui s'est passé d'ailleurs. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup perdu avec Fekir et Ndombele. Là, il y avait vraiment un vrai milieu où les rôles étaient particulièrement dessinés. En gros, pour parler très très vite, Fekir en numéro 10 et deux relayeurs, un aboyeur, c'était parfaitement dessiné. Même quand Fekir imposait un rythme lent, au moins il imposait un rythme. Là, je trouve pas le lien entre le milieu et l'attaque. Entre la défense et le milieu, ça reste à confirmer. Je ne vois pas encore de fluidité. Moi, c'est ça que j'aimais bien dans Lyon. Même quand Lyon ne gagnait pas, il proposait... Alors, il y a un truc très très important. Une équipe qui a une bonne maîtrise collective, c'est une équipe qui sait imprimer des temps forts. Un temps fort, c'est pendant 10 minutes, tu es dans les 30 derniers mètres. J'ai toujours pas vu Lyon, à part les deux premiers matchs. Contre Nantes, c'était pas mal, je reconnais. Il y avait un mieux à Nantes, bizarrement. Mais pour l'instant, je vois pas une vraie expression collective. Je vois pas des grandes individualités comme avec Fekir. Et troisièmement, je ne vois pas d'autant fort.
Shérif, hein.
Pardon.
Il y a une semaine, ils étaient moribonds.
Une semaine, ils étaient pas bien.
Quand même. Oui, non,
donc
entièrement
tu vas pas voir tout ça.
Je dis même que contre Nantes, j'ai vu du bon. Tu vois ce que je veux dire. Donc je les enterre pas non plus. Et une fois de plus, 4 points en 2 matchs. Voilà, c'est bon. Ils ont rattrapé les 2 points perdus contre.
Bien ou pas mal, mais peut mieux faire. On n'a pas encore vu. Une vraie équipe jouer, évoluer de manière collective comme on pourrait l'espérer avec ces joueurs de ballon. J'essaie de résumer votre discours à tous les trois. Pour parler de déclic, c'est sans doute encore un peu tôt. On attendra dimanche. Et le résultat du derby, le groupe est très ouvert en tout cas. On peut considérer qu'il y a 2 équipes pour 3 places. Benfica est un peu largué après 2 défaites. Et le match dans 3 semaines, vous serez d'accord avec ça. Lyon se rend à Benfica. Il sera capital pour Benfica. Une défaite et c'est fini. Si Lyon venait à s'imposer là-bas ou à faire un résultat positif, ça commencerait à sortir bon les huitièmes à mi-parcours.
Ça, c'est le test.
Ça aurait de la gueule, ouais.
On va voir ça, on espère bien qu'on y sera, surtout RFI. Allez, on enchaîne.
La volée de Willian qui rebondit et qui vient tromper Mike Maignan, resté immobile, qui n'a pas bougé, qui n'a pu que constater les dégâts. On sentait que les Lillois avaient du mal dans cette seconde période. Et les voilà punis.
C'est normal pour moi de donner le meilleur pour l'équipe. Cette défaite est difficile à avaler, mais il faut rester positif. Nous avons mieux joué que contre l'Ajax. Nous avons tenu tête à Chelsea. Nous pouvons être fiers de nous car nous avons tout donné. Ce résultat est décevant et frustrant, mais nous allons continuer à travailler pour les prochains matchs. Nous avons les qualités pour remporter au moins un match dans ce tournoi, c'est certain.
Oui, c'est pas faire preuve d'un grand optimisme d'espérer d'avoir une victoire en 6 matchs. Le but de Willian à la 77e qui offre la victoire aux Blues était commenté par Hugo Moissonnier. L'interview de Victor Osimhen, le Nigérian que l'on vient d'entendre, était également fait au micro d'Hugo Moissonnier qui en a profité pour fêter son anniversaire hier par cette défaite quand même de Lille à domicile. Victor Osimhen, il avait égalisé, ensuite Willian a marqué donc et offert les 3 points aux Blues. Osimhen, c'est quand même la bonne pioche, on aura l'occasion d'en redire un mot dans quelques minutes du LOSC cette saison. Pour Lille, c'est fini d'après vous?
Bon, ils ont encore une chance d'aller faire
2 défaites en 2 matchs, hein.
Oui, bon, c'est pour moi c'est pas rédhibitoire. Voilà, donc il faut c'est Chelsea c'est quoi le prochain match
à l'extérieur? Le prochain match c'est double confrontation contre Valence.
Voilà, double confrontation contre Valence qui va pas très bien non plus.
Qui avait gagné à Chelsea, on en reparlera, et qui a perdu hier à domicile face à l'Ajax sévèrement.
Qui a perdu son entraîneur en début de saison, qui est un petit peu un club en crise, qui
9e de Liga.
On a du mal à cerner. Non, c'est pas complètement fini, mais le problème c'est que moi les 2 premiers matchs que j'ai vus, c'est que Lille n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, tout simplement. N'a pas le niveau,
manque d'expérience.
Non, parce que moi l'expérience, j'y crois pas en foot. L'Ajax l'année dernière était
même en Ligue des Champions.
Non, c'est un peigne pour les chauves, parce que j'ai vu que l'Ajax avec des garçons comme De Jong.
Oui, mais l'Ajax cette génération-là évoluait depuis quelques années en Ligue des Champions quand même.
Bah, ils étaient en Ligue Europa, ils étaient allés en finale de la Ligue Europa, mais pour moi non, ça veut plus rien dire tout ça. Kylian Mbappé, il a 20 ans, il veut être champion du monde. Il avait même 19 ans et demi quand il a été champion du monde. C'est une génération, pour parler que des joueurs français, les Ousmane Dembélé. Dembélé, les Tolisso, les Lucas Hernandez n'ont pas besoin d'avoir 100 matchs derrière eux pour avoir des ambitions ou des rêves et le montrer parfois sur le terrain. Pas
donc
tous.
Lille ne paye pas pour apprendre.
Non, pour moi c'est une question de niveau. Ah, si, ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions.
Non, mais il y a les deux.
Il y a le déchet, il y a un déchet technique incroyable hier.
Surtout ce Chelsea là. Alors on a parlé des jeunes.
Sous-estimez pas trop Chelsea. Moi je pense. Non mais chérie, je pense.
Je parle de Lille.
Non, je comprends bien. T'as tout à fait raison et je suis d'accord avec toi. Pour aller dans ton sens, je pense qu'Osimhen n'a pas d'expérience non plus et met but sur but. Mais je pense qu'on a fait
7 hein, depuis le début de saison.
Ouais, il y a que Belotti qui fait mieux en Italie. Moi, le premier, je pense qu'on a quand même fait une erreur assez grave, c'est qu'on a sous-estimé le groupe de Lille en se disant l'Ajax a perdu des joueurs et puis après une saison comme l'année dernière, ils auront du mal à repartir. Chelsea, ils sont interdits de recrutement, ils viennent de perdre Eden Hazard. Il y a peut-être une place pour Lille. Au final, il n'y a pas de place pour Lille. Pour les huitièmes de finale, ça paraît pour moi mort, ils iront pas. La seule ambition qu'ils peuvent nourrir, je vais rejoindre Dominique, c'est d'essayer de faire deux fois Valence pour aller en Ligue Europa. Mais sur ce qu'on voit sur les deux premiers matchs, celui d'hier est pas fondamentalement mauvais. Il y a des occasions, ils marquent un but, ils sont pas ridicules. Mais ce qu'on appelle à chaque fois les détails qui font que, c'est l'erreur que le défenseur fait, c'est la passe qui est pas dans le bon tempo, c'est le choix qui n'est pas bon et qui sur le contre devient bon pour l'autre équipe. Voilà. C'est tous ces petits trucs, toute cette accumulation qui fait que Lille passera pas en huitième de finale.
Vous conseillez à Hugo Boissonnier de changer de cheval, quoi, en gros. Il fondait beaucoup d'espoir.
Moi, j'ai jamais considéré que le groupe de Lille était facile, mais c'est pas un grand Chelsea non plus, Naïm.
C'est pas un grand Chelsea, mais c'est un meilleur Chelsea qu'on pouvait le penser en début de saison.
Ah ouais, non, mais moi, j'entre pas dans
ça. C'est un Chelsea qui risque de se bonifier au fil des semaines.
Sûrement. Non, mais moi, je te dis, j'ai pas fait de spéculation sur Chelsea. Oui, je dis simplement que c'est pas un grand Chelsea. Et donc, déjà.
Donc c'est un petit Lille.
Voilà, c'est ça.
Si Chelsea était champion d'Europe, ça va être un grand Chelsea, shérif.
Naïm. Mais je te c'est dis. Pas un grand Chelsea
oui,
que Lille n'a pas été en mesure de battre à domicile. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire c'est, et je ne rabaisse pas.
Mais tu sais, paradoxalement, Lille peut aller faire match nul ou gagner à Chelsea. Je crois que ça sera l'avant-dernier match.
Peut-être, oui. Peut-être. Mais en tout cas, ils ont perdu. Ils ont perdu.
Non, ce sera le dernier match. Ils ont quand même
Ont quand même perdu à domicile. Pareil, ils ont montré des belles choses. Il y a encore beaucoup de naïveté en défense. Après, pareil. Pour parler un peu comme ça s'appelle des départs, il y a eu beaucoup de départs, des départs qui n'ont pas été compensés. Je suis désolé, quand on perd un leader de jeu, enfin un leader d'attaque comme Pépé, on a beaucoup plus de difficultés. Osimhen est une très bonne surprise.
C'est pas celui qui a été le moins bien remplacé, Pépé. Hein. Parce que
leader d'attaque.
Non, je comprends bien, mais ouais. Niveau comptable, oui, mais après leader ou pas leader, niveau comptable, Osimhen, ce qu'il fait pour l'instant est largement
c'est
dans
très
les temps de passage.
C'est très bien, c'est une bonne surprise. Mais c'est pas Pépé.
Là où ils ont vraiment perdu, c'est au milieu, avec Thiago Mendes. Et puis derrière, je trouve qu'ils se sont quand même vraiment affaiblis.
Je
parle pas de José Fonte individuellement, je pense que la ligne défensive dans son ensemble est plus faible.
Et il y a un détail très important, c'est le gardien, c'est Maignan. Autant Maignan qu'au port de l'équipe de France. On le voit en Ligue 1, on se dit quel gardien extraordinaire. Et là, quand on se retrouve en Ligue des Champions, c'est le test, c'est le juge de paix, la Ligue des Champions. On voit que c'est un gardien moyen.
Ouais.
Pas mauvais.
Mauvais. Je suis d'accord avec toi, mais après Kepa, par exemple, va pas faire un bon match.
Comment?
Kepa n'a pas fait un bon
non,
match.
Non, je suis d'accord.
Kepa a fait des relances incroyables, qui ont mis en danger son équipe alors qu'il menait 2-1. Ouais. On est à deux matchs de Ligue des Champions pour Maignan. On va lui laisser peut-être les 6 matchs pour faire un bilan.
Mais on voit que voilà.
Parce qu'Areola, j'aurais dit la même chose il y a quelques années, et peut-être qu'il va prendre la place de Courtois au Real Madrid.
Je le souhaite et c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, Maignan, pour l'instant, à l'image de Lille, n'a pas le niveau Ligue des Champions. Ça va peut-être venir. Mais il ne l'a pas. Et c'est symptomatique. On parle des gardiens de but. Il faut être bon aux deux extrémités. Hein, en Ligue des
Une
Champions.
Équipe qui a le niveau Ligue des Champions et qui est bien partie pour survoler ce groupe, qui a toujours le niveau Ligue des Champions, dirais-je, c'est l'Ajax. Hein. On pensait qu'ils allaient être pillés cet été, que la machine allait avoir du mal à redémarrer. 3-0, je vais y arriver, chez eux, face à Lille en ouverture. 3-0 hier à Valence. Ça roule, c'est carré. Ziyech a marqué, il est toujours aussi performant. Promesse, c'est peut-être la petite découverte de la saison. Van de Beek pour le troisième but. Tout va bien pour l'Ajax.
Tout va bien, il y a des joueurs qui se bonifient. Moi, j'aimais beaucoup Onana dans les buts, mais j'attendais de voir. Et en fait, les progrès sont là. Voilà, il a passé un cap. On souhaite la même chose à Maignan. Il y a Tadic, c'est une équipe qui se réinvente toujours. Tadic, il est peut-être un peu moins présent, il marque peut-être un peu moins, mais... il joue toujours son rôle de comment on s'appelle d'électron libre d'accélérateur du jeu et puis il y a toujours avec l'Ajax aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel le facteur d'imprévisibilité le but que marque Ziyech mais c'est quand qu'il prend le temps d'armer ça part une fois qu'elle est partie c'est trop tard elle est en pleine lucarne il en met une deuxième qui finit sur la barre Il y a le but de Van de Beek, ça, c'est dans un mouchoir de poche. Les mecs, ils arrivent à trouver une percée plein axe dans une défense quand même. Bon, c'est toujours l'Ajax, ce caractère imprévisible. On les connaît, on pense qu'ils se sont affaiblis. Le fond de jeu est là, l'allant offensif, il est là. Ils ont pratiquement un pied en huitième de finale.
Parce que c'est un projet. Ah bah oui, deux victoires, 3-0, 6 buts marqués, 0 encaissé. Chelsea et Valence semblent un peu tendre, voire, bon, Lille, je pense que ce sera plus pour la troisième place et encore. Chelsea Valence, ça semble un peu tendre pour aller chercher l'Ajax.
C'est un projet club, l'Ajax. C'est-à-dire que quand Monaco a fait une demi-finale de Ligue des Champions, ils ont vendu tout le monde. Ils ont vendu Bakayoko, Benjamin Mendy, Mbappé,
Fabinho.
Ils ont vendu Bernardo Silva, ils ont vendu toute l'équipe. Là, ils ont quand même conservé une sorte de matrice. Il y a, vous avez parlé de Van de Beek, on a parlé de Ziyech, on a parlé du gardien. C'est des joueurs qui étaient là l'année dernière. Ils ont gardé une ossature. Et alors évidemment qu'ils ont fait un peu d'argent. Ils ont vendu De Jong 85 millions d'euros au Barça. Ils ont vendu De Ligt 75 millions à la Juve. Donc ils ont, ça c'est bien, mais c'est de l'argent qu'ils vont réinvestir de façon bonne dans la formation.
Toujours.
Ils vont aller chercher de nouveaux joueurs et dans quelques années, on aura les nouveaux De Ligt et De Jong. Tout en gardant une équipe compétitive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de la spéculation comme a fait Monaco après la demi-finale, puisqu'ils ont été éliminés au même stade à deux ans d'intervalle. Donc voilà, quoi, ça c'est bien, parce que Monaco, aujourd'hui, on voit bien, deux ans après, ce titre, cette demi-finale, on ne comprend plus rien au projet, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas où ils sont.
Le projet, on le connaît, hein, c'est de la vente, c'est de l'achat pour
C'est du trading, c'est pas du foot.
C'est pas du foot.
L'Ajax, c'est du foot.
Voilà.
Un dernier mot sur l'Ajax ou sur ce groupe?
Sur la bonne idée d'avoir gardé l'entraîneur aussi, parce que si on veut synthétiser tout ce qui a été dit par Chérif et Dominique, cette liberté de jeu, ce projet club, c'est aussi au fait, ça tient au fait qu'il y a un entraîneur qui laisse jouer les joueurs. Si Ziyech fait absolument ce qu'il veut sur un terrain, c'est parce qu'il y a un entraîneur qui lui permet. Si Van de Beek peut aussi s'amuser comme il veut, c'est parce qu'il y a un entraîneur qui le permet. Ils avaient perdu leur entraîneur après la finale de Ligue Europa. Ça avait été déjà un petit peu brinque-ballant. Ils en ont retrouvé un qu'ils ont su garder. Je dis pas que l'Ajax va refaire la même saison que l'année dernière, mais en tout cas, ça part plutôt pas mal.
Allez, monsieur Salerno, on enchaîne.
Attention, restez attentifs justement à partir du moment où il est rentré dans la surface.
Arturo Vidal, la reprise.
En première mi-temps, ça n'a pas été. On a été en difficulté à cause de leur sortie de balle où on était très rapidement livré en un contre un sur beaucoup d'espace. Donc on a souffert, moi aussi. Et mieux en deuxième mi-temps parce qu'on a rectifié ce qui n'allait pas et on a su activer un pressing un peu meilleur. On a récupéré les ballons plus haut et on a pu mettre du danger. Donc voilà, c'est une très bonne deuxième mi-temps et une première mi-temps à regarder et à rectifier bien sûr.
Renversant Barça du très sympathique, très clair et synthétique Clément Lenglet, le défenseur de l'équipe de France, mené 1-0 dès l'entame par l'Inter, un but de Martinez dès la deuxième minute, Martinez argentin, je le dis au passage, c'est toujours bon de failloter avec son chef. Deuxième mi-temps, Valverde pas content, m'a dit le Réfé ce matin, mais pas content du tout de son milieu de terrain, il sort Busquets. Quand même pas rien, Busquets, sorti à la mi-temps d'un match du Barça, et fait rentrer Vidal. De Jong et Arthur sont replacés, on passe alors dans une sorte de 4-2-1-3, me dit leur effet, c'est pas tout à fait la marque de fabrique du Barça, mais ça marche, avec donc Messi, Suarez, Griezmann qui sera remplacé par Dembélé, et d'un coup tout va mieux, 2-0. On parle même d'une prise de parole de Messi et de Piqué dans le tunnel qui ramène au vestiaire, ça... Voilà, il y a eu quelque chose. Est-ce qu'ils ont pris le maté ensemble? Ça, on ne sait pas. Griezmann n'a pas communiqué là-dessus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a eu un Barça franchement pas terrible en première période et nettement plus à l'aise en deuxième.
Un Barça pré-Vidal et post-Vidal. C'est-à-dire que Vidal, quand il a rentré et qu'il a commencé à amener son jeu au milieu de terrain, à créer justement du lien entre ce quatuor devant et le milieu de terrain, ça a été beaucoup mieux. Ils se sont mis à avoir le ballon. Je suis un peu déçu du milieu de terrain de l'Inter Milan qui physiquement a un peu baissé le pied en deuxième mi-temps parce que techniquement je trouve qu'ils avaient vraiment rien à envier.
On rappelle que l'Inter survole le Calcio pour le moment, 6 matchs, 6 victoires.
Joue la Juve ce week-end et avec Sensi, Brozovic, Barella, très grosse individualité. Et puis après le Barça fait du Barça, c'est que quand il a le ballon, quand il a ses individualités qui arrivent à se trouver, il marque des buts, il marquera des buts contre tout le monde. Il gagnera quasiment contre tout le monde parce qu'il y a pas beaucoup, il y a quand même pas beaucoup d'équipes qui peuvent aujourd'hui, même sur une mi-temps, faire ce que le Barça fait. Après, c'est vrai, on peut dire oui, mais il se repose sur Messi, mais tous les entraîneurs se reposent sur Messi.
Comment ça s'appelle? La force du Barça, c'est quand t'as, enfin, des grosses équipes, c'est quand ça penche très nettement vers l'avant. Et là, je suis d'accord, ils vont marquer des buts, mais pas contre n'importe qui. Je veux dire par là que c'est, elle a trop de faiblesses au milieu de terrain. Busquets qui sort, c'est on en parle depuis un petit bout de temps. C'est plus le Busquets qu'on a connu. Derrière, je suis désolé. C'est quoi le match qu'ils ont fait samedi après-midi? Tu sais, ils gagnent 2-0, là. Le Barça. Ils ont gagné 2-0. Enfin, c'est à l'extérieur.
C'est pas Rétafé, Eibar.
Un truc comme ça, c'est un maillot jaune. Bon, peu importe. Moi, j'ai vu encore des faiblesses. J'ai encore vu des faiblesses avec ce Barça qui est friable en défense. Ter Stegen ne pourra pas tout arrêter. Il a fait des miracles. Il va pas tout le temps en faire. Une équipe qui penche très, très nettement devant, comme ça peut être le cas de PSG ou du Real par moment. Ils vont assurer des victoires sur la distance. Ce Barça, il penche nettement à l'offensive, mais pas assez. C'est-à-dire qu'ils marqueront des buts, mais ils vont en prendre beaucoup.
Et tant qu'il y aura Messi devant, il penchera toujours vers l'avant.
Après, c'est le boulot du...
Messi, comment tu le trouves, Messi? Tu trouves qu'il est revenu, Messi, toi?
Il est à 100%? Il est peut-être pas à 100%, mais...
Écoutons Dominique Sebrac, qui est passé par là et qui a aussi droit à la parole, messieurs.
J'ai mes des doutes.
Non, mais c'est bien, leur débat est intéressant. Oui. Mais non, après, c'est le boulot de l'entraîneur de changer les choses. Ça veut souvent dire aussi qu'on s'est trompé.
Et là, il a changé. Et c'est pas rien de sortir
mais,
Busquets.
Non, mais c'est bien, c'est un choix fort, mais ça veut aussi peut-être dire qu'il s'est trompé de compo de départ. Donc, quand un entraîneur change et que ça marche, on dit, bon, ouais, bravo, mais n'oublions pas qu'il s'est trompé aussi dès le départ. Et puis après, les difficultés du Barça, elles sont depuis le début de saison. Première journée, ils perdent déjà à l'extérieur. Ils ont quand même des soucis à l'extérieur où ils sont déjà à 2 défaites, je crois. À domicile, c'est pas toujours flamboyant. On sait pas très bien si la grève Griezmann sur le côté gauche,
ça devient problématique.
Elle prend ou elle prend pas. Alors une fois, il fait un doublé, mais bon, les autres étaient pas là. Là, Messi revient, donc on va lui laisser un petit peu de temps pour retrouver ses cannes. Là, c'est le vieux Suarez qui sauve un peu la mise. Il faut attendre que ce Barça se mette en place, quand tout le monde sera là, quand tout le monde sera en forme, parce que je n'ai pas encore une lisibilité assez claire sur la saison du Real. Est-ce que ça sera une grande équipe, un grand Real, du Barça? Est-ce que ça sera un grand Barça cette année? Je sais pas.
Ça donc s'applique aussi au Real, hein, finalement, ce que vous venez de dire.
Oui.
Là-dessus, c'est révélateur.
Le Real, on voit déjà beaucoup de problèmes. Du gardien à Benzema tout seul devant. On identifie déjà beaucoup de soucis. Le Barça, c'est...
On commence à trouver des solutions.
Le Barça, c'est plus compliqué. On sait qu'une équipe avec Messi, elle a quand même un avantage que les autres n'ont pas. Mais est-ce que ça va bien? Est-ce que Suarez peut tenir toute une saison? Est-ce que Griezmann va pas se lasser de jouer à gauche? Quid de Dembélé qui a voulu absolument rester? Lumière de terrain, est-ce que ça sera Busquets ou pas? Est-ce que De Jong, qui était venu jouer sentinelle devant la défense, est-ce qu'il va il va jouer Arthur, tout ça, Sergi Roberto? J'ai encore du mal à voir le mécano.
Vous parliez de Suarez, c'est vrai que il était très critiqué, certains le disaient fini, et puis boum, comme il sort un comme doublé, deux buts magnifiques, surtout le premier. Enfin bref, Suarez est là.
Ben comme tous les ans, on en parlait il y a 3 semaines, on le disait, c'est en dessous Fatih, il faut qu'il prenne sa place, c'est fini, il est cramé, les machins. Et puis chaque année, vous faites une saison à 25-30 pions, vous faites 15 passes décisives.
Pas de problème.
Parce qu'il pue le football, il est très fort. Voilà. Alors évidemment, il a pu ses cannes de Liverpool ou de ses premières saisons à Barcelone. Mais le talent qu'est le sien, la grinta qui est la sienne, et puis en plus sa complémentarité avec Messi, puisque s'il y en a bien qui est complémentaire avec lui, c'est Suarez, vont faire qu'il va encore faire une saison où il sera aux alentours de 20-25 buts et où le Barça devra compter sur lui, parce que de toute façon, à ce poste-là, ils n'ont pas meilleur.
Et le problème, c'est que à cette paire, il va falloir associer Griezmann. Pour l'instant, la greffe n'a pas pris. D'abord, le côté gauche, c'est hyper réducteur. J'ai l'impression qu'on refait une Thierry Henry. Autant Thierry Henry, quand il est arrivé au Barça, il jouait à gauche, il a été très discipliné et il y a retrouvé son compte. Il a gagné des titres, il a marqué beaucoup de buts. Mais par contre, il s'est mis au service. Il est resté vraiment à gauche, hein, Thierry Henry. Griezmann, ça devient du gâchis. Il a un volume de jeu et un espace de jeu qui est beaucoup plus intéressant dans l'axe, en deuxième attaquant. L'isoler comme ça du côté gauche, on laisse ça à Dembélé, c'est bien. Mais Griezmann, c'est du gâchis.
Il aurait fallu qu'il recrute Neymar. C'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé.
La team taquine.
Ça va pas tarder.
Là, il y a un problème Griezmann.
Écoute l'émission.
Sur le papier, moi, je suis pas inquiet parce que les grands joueurs finissent toujours par s'entendre. Mmh. Mais il va falloir quand même que la paire Messi.
On sait très bien. Tu connais très bien le problème. Tu sais très bien que Messi ne voulait pas de Griezmann. Tu sais bien que c'est un choix de la direction.
Bien sûr, je le sais. Et plus, leurs relations, enfin, aux dernières nouvelles, ne sont pas top non plus.
Il y a des papiers qui sortent dans la presse d'habitude pro-catalane, ouais, qui quand même montrent qu'il y a des grosses divergences cette saison entre la direction et les joueurs.
Et l'entraîneur, entre autres.
En tout cas, le Barça est en tête avec Dortmund. Taisez-vous, s'il vous plaît, monsieur Guémour. Prague et l'Inter sont à 3 points. On enchaîne.
Wong avec ce ballon pour Haaland. L'égalisation pour Salzbourg.
It's 3-3. Incredible. They were 3-0 down. And it's all square at Anfield.
Il y a des équipes qui auraient laissé tomber après avoir pris 3 buts à Anfield. Ça n'est pas le cas de Salzbourg, vraiment pas. On a laissé la porte ouverte et ils en ont profité. Ils ont inscrit leur but avant la mi-temps, nous avons essayé de nous ajuster, mais pour ce qui est des buts qu'ils ont inscrits, sur le premier, nous avons perdu le ballon facilement. Sur le deuxième ou le troisième, on l'a perdu facilement aussi. Les contre-attaques à 3 contre 1 n'ont pas beaucoup de sens. Mais c'est arrivé, je l'ai déjà dit, c'était une leçon très importante pour nous ce soir et je préfère la prendre massivement dans le match qu'après la rencontre. Si nous avions perdu 4-3, ce serait la même leçon. Mais nous avons gagné 4-3, donc on prend les 3 points.
L'analyse parfaite de Jürgen Klopp, le technicien des Reds de Liverpool. Le but, c'était celui d'Haaland, le Norvégien, qui permettait alors au RB Salzbourg de revenir de 3-0 à 3-3, quand même, face au tenant du titre. Finalement, Mohamed Salah, un petit peu plus tard, va donner la victoire en inscrivant un doublé, je le signale au passage, pour tous nos amis à la FIFA et à l'UEFA. Mohamed Salah donc a marqué 2 buts. Sadio Mané, un seul. C'est juste pour leur rafraîchir la mémoire concernant les petits trophées à remettre chaque année. Hein. On referme le débat, il est suffisamment tendu comme ça avec nos auditeurs africains, mais on pense à eux. On a l'impression, c'est marrant, Jürgen Klopp, il parle de porte ouverte à un moment, oui, on avait cette impression qu'à un moment, Van Dijk et ses copains en défense, ils ont fait une opération porte ouverte à 3-0. Et
c'est surtout que Fabinho, en fait, s'est retrouvé bien seul devant la défense, parce que Henderson et Wijnaldum ne lui ont quand même pas prêté main forte, réellement, sur ce match. Je les ai trouvés vraiment très friables, très mauvais. Derrière, ils ont pas été bons, et le score, même à 3-0, ne reflète pas la physionomie du match, parce que si Salzbourg est un poil plus efficace et s'il n'y a pas Alisson dans les buts, tu peux être à 2-2 facile. La première mi-temps, la première demi-heure, elle est absolument folle. Ça va d'un sens à l'autre et il y a eu beaucoup d'occasions du côté des Autrichiens. Après, le niveau des joueurs aussi fait que Liverpool a peut-être plus de facilité à enquiller les buts que Salzbourg. Mais le score n'a pas reflété vraiment la physionomie du match et ils sont passés pas très loin de la correctionnelle. Et si tu te rappelles du premier match contre Naples où ils ont énormément souffert, tu dis que depuis le début de la saison en Ligue des Champions, c'est pas un grand Liverpool en Coupe d'Europe.
Est-ce qu'il peut y avoir eu un petit péché de suffisance, Dominique?
Oui,
7 matchs, 7 victoires en Première Ligue, on rappelle, ils marchent sur l'eau, 5 points d'avance sur City.
Et
ils prennent 2-0 à Naples en ouverture, encore une fois ils sont tenants du titre, et là on est passé pas loin de la correctionnelle.
Et ils mènent 3-0, donc il y a une forme de relâchement aussi, de suffisance et de relâchement, mais après on sait que l'année dernière le PSG a fait un très mauvais match là-bas, ils avaient quand même perdu que 3-2, c'est-à-dire qu'à un but près, il y avait match nul, et même Draxler a une occasion de faire 3-3. Mm-hmm. Donc, on sait que Liverpool en phase de poule, c'est pour ça qu'on dit souvent que la phase de poule et les matchs à élimination directe, c'est quand même deux mondes différents. L'année dernière, Liverpool a perdu tous ses matchs à l'extérieur et gagné tous ses matchs à domicile en phase de poule, et c'est comme ça qu'ils finissent deuxième et qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Donc, on sait que Liverpool, c'est une sorte de diesel un peu de la Ligue des Champions. Là, ils ont perdu à Naples. Là, donc ils font un mauvais match à domicile, entre guillemets, parce qu'ils finissent par le gagner. Moi, je suis pas très inquiet pour Liverpool, mais bon, il faut qu'ils fassent attention, faut pas qu'ils jouent avec le feu, parce que après Naples a aussi fait match nul contre Genk, donc. Ils sont tranquilles quand même.
C'est pour ça que j'en remets une petite couche. Heureusement qu'ils ont Salah et Mané. Redis pour tous les gens qui votent.
Ouais.
Shérif, ouais.
Non, détail, ouais. C'est marrant de voir Virgil van Dijk prendre un vent comme il prend sur le premier ou le deuxième but, le crochet
le
et
premier.
Tout. Ouais, c'est ça.
Ouais, terrible.
Il se retrouve sur les fesses.
Terrible.
Donc faut faire attention parce que ça c'est ce genre d'action c'est quand même parlant, c'est le genre de truc qui peut mettre le doute quand même. Faut quand même
Le doute de quoi?
Tu sais, c'est jamais neutre. De toute façon, après si on arrive à 3-3, c'est parce que quand tu vois ton leader en défense prendre un vent comme ça, c'est jamais très bon. Enfin bon, j'ai dit que c'était un détail.
C'était le meilleur défenseur du monde avant le match, il n'est pas devenu le
moins... J'ai pas dit ça. Je te dis, c'est par rapport à l'image, par rapport à la confiance. Et surtout, après, c'est ensuite là que, comment ça s'appelle, l'équipe de Liverpool se délite. Parce que quand ton leader se fait prendre un vent... Bref, je vais... Mais sinon, je vais oser.
Oser
ouais, après, je vais rester dans les propos de... de Dominique. C'est vrai que l'année dernière, c'était pareil. Le premier tour, c'était pas fameux. Et alors, je vais oser peut-être une théorie. On va voir si elle se vérifie ou pas. C'est que Liverpool a couru pendant des années après la 6e Ligue des Champions. Ils l'ont, ça y est, c'est fait. Ça fait 20 ans maintenant, pratiquement. Ouais, 20 ans qu'ils n'ont pas gagné le championnat. Donc, je pense un petit peu, on verra si ça se vérifie, qu'il y a l'objectif
année,
championnat.
C'est voilà, la première ligue qui prend.
C'est ça. J'ai pas dit qu'ils sont en train de lâcher la Ligue des Champions. S'ils peuvent la gagner, ils la gagneront.
On disait déjà ça les dernières. On disait déjà ça les dernières quand ils avaient
90. Non, mais maintenant, c'est fait. Sauf que c'est fait. C'est fait. La Ligue des Champions, c'est bon.
Mais
c'est...
Oui, non, mais s'ils peuvent en gagner deux de suite, ils vont pas se priver.
C'est ce que je viens de dire.
Ça aurait été vrai il y a 20 ans avec un entraîneur anglais, Jürgen Klopp, je crois pas une seconde.
Ah non, mais j'ai pas dit qu'il lâchait.
Non, je dis pas qu'il lâchait, mais que ce soit. Liverpool démarre toujours une saison pour être championne. Ça me paraît évident. Mais dire qu'à un moment donné.
Non, mais là, c'est impressionnant, championnat, quand même.
C'était impressionnant l'année dernière aussi, jusqu'au moment où ils ont perdu contre
City. Ils ont eu 7 points d'avance à un moment sur City.
Ils en ont même eu 9.
Ils en ont 5 là-bas.
Et voilà, à partir du moment où ils ont perdu la confrontation directe, ils se sont mis à lâcher des points. Il y a quand même un truc, tout à l'heure, t'as dit un truc qui est passé un peu inaperçu. T'as dit, c'est un peu comme le Real Madrid. Moi, je repère quand même un truc avec ce Liverpool-là, c'est qu'il tourne pas beaucoup. Et que Klopp ne tourne quasiment pas beaucoup, ça me rappelle un peu le Real de Zidane où ils jouaient tout le temps avec les mêmes joueurs.
C'est ça.
Et où au final, à un moment donné, tu as très rapidement vu comment ils allaient jouer, comment ils allaient s'en sortir, comment les contrer. Et ça a commencé à mettre le petit grain de sable. Donc attention à ce Liverpool-là.
Bah tiens, justement.
Ça reste la meilleure équipe d'Europe quand même pour moi.
Oui.
Ah bah c'est le mot de la fin pour ce qui est des matchs d'hier, mais puisqu'on parlait du Real, c'est le flop pour vous, le Real, de ce début de phase de poule de Ligue des Champions.
Il y a Tottenham quand même.
Petit bilan de deux journées. Il y a Tottenham qui a perdu encore.
Finaliste de la Ligue des Champions qui prend 7-2 à domicile par le Bayern Munich. C'est Tottenham, c'est quand même un énorme flop sur ce début de saison et pas forcément qu'en Ligue des Champions d'ailleurs.
Non, je crois que le Real c'est pire, franchement. Franchement,
non.
Et son premier championnat espagnol, c'est ça qui est compliqué.
Ouais, mais moi j'ai vu un peu de mieux en championnat espagnol. Mais non, un 3-0, c'est jamais neutre non plus. On a parlé de la symbolique 3-0. Tu prends à Paris, ils ont même pas existé. Il y a aucun tir cadré.
Il y a pas Neymar, il y a pas Mbappé.
Là ils sont menés sur leur pelouse. Donc voilà, ils arrachent le match nul. C'est pas qu'ils font match nul, c'est qu'ils
C'est un flop pour le moment.
Moi, quand je comparais le Liverpool et le Real, c'est que on a vu des fois le Real gagner la Ligue des Champions, finir deuxième de poule. Donc, c'est pas inquiétant. Mais ce Real-là, c'est inquiétant.
A contrario, Paris, vous venez de dire sans Neymar, sans Mbappé. Alors, Mbappé était là mardi, mais pas vraiment là non plus. Il a joué 30 minutes et on sent bien qu'il est pas tout à fait là. Il va falloir à un moment encadrer. C'est bien parti, mais on a l'habitude que Paris flambe en phase de poule. Un mot, votre avis sur ce Paris-là, sachant qu'il va bien falloir à un moment intégrer Mbappé complètement, réintégrer Neymar et peut-être Cavani par rapport à Icardi.
Bah, dès le prochain match à Bruges, où ils peuvent avoir 9 points et être quasiment qualifiés, il y aura le retour de Neymar de suspension, puisque sa peine a été ramenée à 2 matchs. Donc ça y est, il les a purgés. Dans 3 semaines, Kylian Mbappé sera plus gêné par sa cuisse, donc au moins ces deux-là normalement seront sur la pelouse de Bruges pour ce qu'on espère être un grand match. Mais après c'est très bien, hein. on va pas ne pas applaudir une équipe française qui est en tête de sa poule, qui a 2 victoires en 2 matchs, dont une contre le Real Madrid, un soir où tout le monde s'est lancé un peu dans l'inconnu, on savait pas vraiment ce qu'allait se passer, si on avait pronostiqué des nuls ou une courte victoire de Paris, donc 3-0 a un peu surpris tout le monde, mais ça ne reste qu'une phase de poule et qu'elle ne dit rien de la suite. Donc on va dire c'est bien, mais on peut pas s'emballer complètement non plus. Et puis après le match en lui-même, c'était un match sans génie, plutôt maîtrisé mais sans plus.
Sans bon renom.
Voilà, ça aurait pu
pas en tribune. Mais
tu peux toujours prendre un but en bois qui aurait fait un partout un peu, qui t'aurait un peu gâché la fête. Di Maria qui avait été l'homme du Real Madrid, il a un peu gâché le devant le but. Donc voilà, on peut dire que c'est bien, on peut être satisfait, mais on peut
peut-être
pas non plus.
Qu'avant, Paris aurait fait match nul justement sur ces matchs-là. Là, Paris a su mettre le pied à faire des fautes efficaces, a été accrocheur pour préserver cette victoire ou non?
C'est sûr que Gueye, alors c'est pas que Gueye, hein, mais Gueye, il a changé un peu le profil de cette équipe. Il est très très intéressant, c'est vraiment, aujourd'hui, la nouveauté de cette saison, c'est lui quand même. Et On va voir comment tout ça s'intègre maintenant avec Neymar.
Faut qu'ils viennent nous voir, Idrissa Gueye. On l'a dit déjà à tous les auditeurs, si vous connaissez là, il y a des Sénégalais qui nous écoutent. Bon, il y en a peut-être qui peuvent lui faire passer le message. Aliou Cissé, faut lui dire, venez nous voir, monsieur Gueye, on serait tellement
ravis. Quand Tourelle fera tourner un peu en Coupe de France, on l'aura.
top, flop, on est d'accord, voilà, on a à peu près brossé, d'après vous, ceux qui ont réussi ou raté ces deux premières journées de phase de poule.
Bah, paradoxalement, l'Inter est quand même pas terrible, hein, parce que vous faites un nul à Prague, un nul à domicile contre Prague, vous êtes meilleur que le Barça, vous perdez 2-1, c'est quand même pas fou, vous avez un point au bout de deux matchs, et pourtant, vous jouez plutôt pas mal, donc c'est...
Real Inter Tottenham, c'est des sacrés flops. Pour les tops, faut peut-être attendre encore un peu.
Pour moi, Tottenham est un plus gros flop que le Real, par contre.
Allez, c'est fini pour la Ligue des Champions. On va accueillir un nouvel invité pour parler de l'équipe de France. Monsieur Salerno, on a un jingle, équipe de France. Ah non, ah ben non, il a pas. Il a fait juste, il m'a fait croire que, et puis finalement, il m'a dit
le suspense.
Le suspense. Alors accueillons Thomas de Saint-Léger.
Ouais, je suis invité. Bonjour ouais, Olivier.
Bien sûr, mais bien sûr, on vous a invité. Vous avez reçu le carton, monde. Vous êtes venu. L'Islande le 11 à Reykjavik, la Turquie au Stade de France le 14. Là, il y a vraiment de la revanche dans l'air. On l'a bien senti. Hein, la défaite de juin, Cognan n'est pas passé pour les Bleus. Il y aura de l'ambiance parce qu'il y a aussi beaucoup de Turcs qui seront là au Stade de France. On en connaît quelques-uns. Deux matchs décisifs pour les Bleus dans la course à l'Euro. Didier Deschamps a livré sa liste ce jeudi. Vous y étiez, Thomas. Qu'est-ce qu'on en retient?
Bah on en retient que 5 changements déjà, c'est quand même le premier fait, 5 changements à toutes les lignes d'ailleurs, on va les détailler si vous voulez Olivier, allez, alors en commençant par les gardiens, c'est Mike Maignan qui sort du groupe, Steve Mandanda qui revient, ça c'est important, en défense centrale on le savait, hein, Umtiti ne sera pas là, il est remplacé par Kimpembe, on en reparlera peut-être. Au milieu de terrain, deux changements, c'est Guendouzi et Nzonzi qui disparaissent au profit de Dombele et Kanté. Puis en attaque, retour de Kylian Mbappé, même si on va voir quand même l'évolution de cette blessure. Et Nabil Fekir qui sort de ce groupe.
Mbappé, tout de suite, vous qui suivez le Paris Saint-Germain, vous avez des infos. C'est vrai que il revient, il a une douleur à l'entraînement lundi à Galatasaray. Il ne joue que 30 minutes. De toute façon, Tourelle nous dit en conférence de presse dès lundi, il n'a pas 90 minutes. Reste à savoir si je le fais démarrer et que je le sors ou si jamais je fais démarrer Icardi et que je fais rentrer Mbappé ensuite. Ça a l'air un peu fragile tout ça.
Oui, et donc comme il y a la réception d'Angers, certes, qui est le dauphin du championnat. Mais
c'est le choc samedi 17h30.
Tout à fait, mais qu'après il y a une trêve et qu'après il y a la saison, elle est encore longue. Et qu'on peut imaginer que l'équipe de France peut ramener un bon résultat d'Islande et contre la Turquie sans Kylian Mbappé. Je pense que logiquement, on va aller soit vers un forfait, soit il sera préservé pour le match en Islande. Et il ne jouera peut-être que le match contre la Turquie. Ouais, il jouera pas les deux matchs. Parce que vous savez, c'est deux matchs très rapprochés. C'est le vendredi 11 et le lundi 14. Donc, c'est quand même ça va être une grosse dépense d'énergie, ces deux matchs aussi rapprochés. Donc, soit il reste avec l'équipe de France, mais sans doute pour jouer le deuxième match, soit il déclarera forfait parce que ça serait plus sage qu'à ce moment-là de la saison, il continue à solidifier sa lésion à la cuisse gauche.
Nous, ce qu'on préférerait, vu qu'on retransmet Turquie-France en direct et en intégralité, c'est qu'il soit plutôt préservé à Reykjavik et qu'il rentre contre la Turquie. C'est peut-être le scénario le plus probable.
Oui, tout à fait. Oui.
Pour rester dans le groupe. Pour rester dans le groupe et jouer le
Je pense que samedi, par exemple, il jouera
c'est
pas.
C'est le match, hein, c'est le leader. Ils nous ont battus là-bas, on les reçoit. Si on les bat, on prend la tête.
Ils nous ont battus, ils ont battu la France parce que les Bleus qui l'ont reconnu et Didier Deschamps surtout ont sans doute rendu la plus pâle et la plus ignoble copie depuis l'ère Deschamps. C'est pour ça qu'il y a vraiment de la revanche dans l'air.
Les conséquences sont les mêmes, on a perdu en fait. Qu'on ait été bon ou pas bon, on a perdu. Donc c'est
mais quand on est vraiment mauvais,
il faut. Voilà, donc c'est. Bon, il jouera qu'un match sur deux, et puis de toute façon, quand bien même il ne jouerait pas les deux, l'équipe de France a 100 fois les moyens de battre l'Islande et la Turquie en 3 jours sans lui. Donc
l'Islande, c'est quand même moins bien. Ça a été bon en l'euro, mais après on va quand même retourner voir.
Mais l'Islande, voilà, c'est pas fait. Tu vas en Islande, ils ont encore une chance.
On n'a pas dit que c'était fait. On a dit que c'était moins fort que ce que ça. Voilà, c'était la belle histoire de l'euro. Ils se sont qualifiés, ils ont surfé sur la vague, ils sont allés à la Coupe du Monde. On peut pas dire que ce soit tout à fait des fous de guerre.
L'Islande joue sa dernière chance, donc voilà. Après, s'il faut définir un favori, la France est favorite en Islande, mais l'Islande a encore quelque chose à jouer.
Bien sûr, mais il y a deux qualifiés dans la poule. L'équipe de on France, elle est pas la ramasse non
on
plus.
On peut avoir un France-Turquie avec les deux équipes déjà qualifiées d'ailleurs.
J'ai pas dit et puis faut voir aussi de manière très intelligente, vu le niveau du groupe, si tu bats l'Islande et la Turquie sur cette fenêtre, t'es qualifié.
C'est bon.
Parce que derrière, c'est pas la même dynamique.
Si jamais l'équipe de France gagne à Reykjavik, l'affaire est pliée.
Même 4 points, c'est plié. Donc je vais mettre un petit bémol aussi.
Mais bien sûr, mettez un bémol.
Qu'il soit là ou pas, Kylian Mbappé, qu'il soit à 50, 60, 70%, il y aura un problème de rythme et un problème de rythme pour celui qui est l'autre attaquant, a priori titulaire, en tout cas le plus souvent avec Didier Deschamps, c'est Olivier Giroud. 191 minutes de jeu depuis le début de saison avec Chelsea. Beaucoup de questions ont tourné autour de lui pendant cette conférence de presse. Et pour la première fois, on a quand même senti chez Didier Deschamps, même s'il ne vous le dira pas évidemment frontalement, qu'il y avait de l'inquiétude par rapport à la situation personnelle de Giroud en club.
Olivier Je vous parie qu'il marquera.
Olivier Giroud, il a fini meilleur buteur de la Ligue Europa sans jouer en championnat.
Il a marqué avec les Bleus début septembre.
Je parie que Giroud marquera.
Oui, mais la différence avec l'an dernier, c'est que justement, les fois, il peut avoir l'occasion de jouer avec Chelsea, que ce soit en Coupe d'Angleterre ou en Ligue des Champions, même si là, forcément, on fait moins tourner en Ligue des Champions qu'en Ligue Europa. Cette fois, il est pas aligné, contrairement à l'année dernière. Et d'ailleurs, Deschamps l'a relevé.
Je vous parie que Giroud marquera.
On l'a bien noté, on a la bande. Ça tourne l'émission.
Il est toujours
on garde tout ça.
Il est toujours là.
Et au prochain concert, le 8 octobre, ça n'est pas lui qui perdra la bière. Enfin, ça ne sont pas les auditeurs. C'est vous qui paierez définitivement la tournée de bière. Je vais y arriver. On a parlé de chez les gardiens, le retour de Mandanda. On en dit deux mots après avoir écouté Didier Deschamps qui nous parle de Steve Mandanda.
Forcément, ce qui est en faveur de Steve est au détriment de Mike, même si Mike fait un bon début de saison avec son club, mais c'est le fait que Steve a retrouvé un très bon niveau depuis le début du championnat, où il est décisif. Il a une expérience et un vécu avec nous qui est important. Donc je fais ce choix-là, en sachant que la situation des gardiens peut évoluer aussi, mais par rapport à ce qu'il réalise depuis le début de la saison avec son club, et je le répète, en y ajoutant aussi le vécu et l'expérience qu'il a avec ce groupe, j'ai pris la décision qu'il revienne.
Retour, on ne peut plus logique et très attendu de Steve Mandanda.
Il a été sauvé par Zinedine Zidane, Mandanda et Deschamps, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'Areola joue un match de championnat et rentre en Ligue des Champions, parce que moi j'aurais trouvé bizarre de continuer à appeler Areola après son prêt au Real sans aucune minute, parce qu'évidemment que le retour de Steve Mandanda s'impose. Son début de saison est magnifique, c'est le meilleur Marseillais, plus que Benedetto, plus que tout le monde, il se met en évidence, il est fit, il est bien, on sent que mentalement il est au top. Et puis rappelez-vous qu'en équipe de France, il y a un vrai bénéfice Mandanda, c'est un cadre important de l'équipe de France. On sait que c'est quelqu'un qui fait autorité, dont les gens écoutent la parole. Pogba, tous les jeunes sont un petit peu sous la domination positive de Mandanda. Donc ce retour paraissait logique. Après, il fallait savoir s'il fallait sortir Maignan ou Areola. La logique de groupe et les...
Areola fait une super rentrée pour le Real.
Voilà.
Mardi.
Et puis il a fait un super match en championnat. Et la logique de groupe, c'est qu'il était là avant Maignan, donc on sort Maignan.
Tant que je vous tiens, autre Parisien, Kimpembe qui revient. Vous faites partie de ceux qui trouvent qu'il revient très très bien avec le PSG, ou comme certains, dont moi, trouvent que mardi, par exemple, à Galatasaray, il a été suffisant et il aurait pu coûter cher.
On est à 3 matchs en 3 semaines, un contre le Real, un contre Reims, un contre Galatasaray, donc il débute sa saison. 3 matchs, c'est un peu court pour juger de quel état de forme il est. Après 4 mois d'arrêt, celui contre le Real est bien, celui contre Reims un soir où Paris perd, c'est le seul qui est le moins mauvais, on va dire. Les journaux lui ont mis la moyenne, 5 dans l'équipe et dans le Parisien. Bon, à Galatasaray, voilà, c'est le troisième match, encore une fois. Et c'est là aussi, on est dans la logique de groupe. Vous voulez prendre qui à partir du moment où tous ceux que vous aviez tenté la fois d'avant, les Laporte, tout ça, se sont blessés. Umtiti, c'est pas possible. Donc derrière Varane, Lenglet, bah, vous retombez sur le...
On est dans la logique de groupe. Rien à ajouter, Thomas ?
Non, sur Kimpembe, quand même, ce qu'il... Quel que soit son état physique, il a quand même ses réflexes un peu agaçants de suffisance, comme vous dites, et il l'a montré à Galatasaray sur une action en fin de match.
Allez, merci à tous, merci à Laurent Salerno, Pierre-Olivier Guérin, David Finzel. Demain, vous retrouvez la dame pour le Café des Sports.
Ce samedi,